Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étantes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous sommes dans la famille de Judas. Et il y a plusieurs noms, une liste énorme. C'est Jabez qui va être celui qui va être le plus considéré dans cette famille. Non pas parce qu'il était grand, beau ou intelligent, mais parce qu'il a prié. On ne se souviendra pas de lui parce qu'il a fait des exploits, des choses extraordinaires. On va se souvenir de lui parce qu'il a fait une prière au Seigneur. Et je pense qu'il n'a pas fait une fois et puis qu'il a oublié sa prière. Je pense que c'est la prière de toute une vie. La prière de toute une vie. Et je crois que c'est important d'avoir des prières. Il y a des fois des prières comme ça, des petites prières éclairs ou des petites prières qu'on ne se souvient même plus avoir faites. Mais Jabez va travailler à sa prière. Il va y travailler tous les jours. Jamais Jabez n'oubliera que sa mère a beaucoup souffert en le mettant au monde. D'ailleurs, son nom veut dire quoi ? Souffrance. Souffrance, douleur. Allez, si vous étiez, rappelez-vous quand vous étiez enfant, imaginez-vous que votre maman vous appelle douleur, souffrance. Et douleur, est-ce que tu peux venir parce qu'il y a quelque chose. Douleur, viens ici. Douleur, souffrance. Et sans cesse, cet enfant, on lui rappelait la souffrance de la mère. La mère lui rappelait cette souffrance qu'elle avait portée. Alors, on ne sait pas de quelle souffrance il s'agit. Il y a la souffrance de l'enfantement, la grossesse, l'accouchement bien sûr, les douleurs de l'accouchement, mais ça doit être autre chose, parce que tous les enfants passent par là. Ça doit être autre chose. Vous allez dire, il y a des grossesses plus difficiles, hein, et on vient déjà de prier pour Shirley, et c'est vrai qu'il y a aussi des accouchements plus pénibles que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais il peut y avoir d'autres choses. On ne sait pas tout. La parole de Dieu ne dit pas tout. Quelquefois, il y a des jumeaux et l'un d'eux meurt. Et ça, c'est une souffrance. Et pour les parents, et pour le frère ou la sœur qui a vécu un traumatisme à l'intérieur, même si on lui cachait, même si on ne lui disait pas. Il y a des enfants... On a fait des expériences et ils dessinaient des dessins très sombres parce qu'ils avaient connu un deuil. Ils ne savaient même pas, mais ils avaient souffert énormément. On ne sait pas. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? On ne le sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est très dur pour lui. Et ce qui est important, c'est que Jabez va prier le Seigneur. Parce que cette douleur-là, il veut qu'elle soit changée. Il ne veut pas garder à l'esprit qu'il est la douleur de sa mère pour toute sa vie. Comme un verdict qui est placé sur sa vie, tu t'appelles douleur et tu vas rester cette douleur jusqu'à la fin de tes jours. Comme une parole qui est comme un sort jeté sur une personne. Et il n'acceptera pas cela. Jabez n'acceptera pas de vivre avec ce nom qui communique la douleur de sa mère pour tous les jours de son existence. Dieu a écouté la prière de Jabez et nous avons le droit, en tant qu'enfants de Dieu, de croire que si Dieu a écouté la prière de Jabez, Dieu écoute aussi nos prières et qu'il va agir. Pourquoi ? Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Il n'y a pas de considération de personne. Dieu aime toute personne qui croit en lui ou qui ne croit même pas en lui. Bon, Dieu aime tous les hommes, mais Dieu va agir par rapport à la prière de ses enfants. Dieu répond à la prière de ses enfants. Alors Jabez est né et a grandi dans ces circonstances, dans la souffrance, et il a choisi de chercher la faveur de Dieu. Il a cherché la faveur de Dieu. Est-ce que vous cherchez la faveur de Dieu? Nous sommes au début 2014. Est-ce que nous cherchons la faveur de Dieu? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si la faveur de Dieu est sur vous, vous allez être fameusement enrichi. Si vous cherchez la faveur de Dieu, Dieu va répondre. Dieu est puissant. C'est Dieu qui anime notre foi. C'est lui qui nous donne la parole. Et il veut nous animer de sa faveur. Ce n'est pas évident de porter un nom semblable, comme on l'a dit. Pas du tout. Mais à la fin du compte, il y a une chose qui sera marquante. Jabez était plus considéré que ses frères parce que Dieu répond. Et finalement, Jabez sera plus considéré que ses frères. C'est extraordinaire. Malgré sa souffrance du départ. Ce que vous avez été dans le passé ne doit pas déterminer votre futur, votre avenir. Ce que vous avez été, ce qu'on a pu dire de vous, ne doit pas déterminer ce que vous serez. Le mépris qui a pu être sur vous ne doit pas déterminer la manière de recevoir une image de soi. Dieu veut transformer. Dieu est capable de changer les verdicts des hommes sur votre vie. Dieu a changé le verdict des hommes à propos de Zachée. C'était un homme voleur, un trompeur. Hein, Jacob aussi. Hein, Jacob, c'était... Oui, Jacob, par définition, c'était le trompeur. Mais Dieu a changé ce verdict-là. En Israël, Dieu, celui qui a lutté avec Dieu, qui a été vainqueur. Zachée aussi a été jugé par les gens de son environnement à Jéricho. Et Dieu n'a pas changé son nom, mais il a été honoré. Il a reçu Jésus dans sa maison. Si son nom n'a pas été changé, sa vie et la maison de son cœur a été transformée. Il y a eu une joie qu'il ne connaissait pas. La tristesse du départ a fait place à la joie. Jacob, qui ne connaissait pas Dieu, a connu le Seigneur. Il a plié les genoux devant lui. Il y a eu une transformation. Les choses anciennes ne vont pas rester toujours comme cela. Dieu est capable de changer nos situations, même si dans le passé, il y a eu des paroles qui ont été prononcées contre vous sans que vous le sachiez aujourd'hui. Des fois, on ne sait pas de quoi on est chargé. Les aïeux, les ancêtres. Un père alcoolique va donner naissance, bien souvent, à un fils alcoolique qui sera tellement opposé à l'alcoolisme. Qui dira, mais c'est infernal cette vie, je ne veux pas de cette vie, mais il va y retomber. Parce que c'est le cycle. Parce que quand les générations qui vont se suivre vont commettre de nouveau les mêmes choses, de père en fils. Mais les chaînes peuvent être brisées par la puissance de Dieu. Dieu est capable de transformer ces choses, d'arrêter, je vais dire, cette fuite de la bénédiction. Ce brisement que toutes ces choses qui ont été portées d'une génération dans une autre créent dans la vie d'une personne. Les choses anciennes sont passées, c'est ce que la Bible dit. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il peut y avoir une rupture par rapport à l'ancienne vie, à ce qu'on a pu dire de nous, à ce qu'on a voulu faire de nous. Peut-être on a voulu nous mettre dans je vais dire, dans un carré, dans une forme bien précise, dans une boîte. Mais le Seigneur veut nous en libérer pour nous conduire dans la véritable liberté. Au milieu d'un environnement hostile à son bonheur, c'était hostile. Porter le nom douleur, c'est quelque chose d'hostile à la personne. Ça défigure son image de lui. Vous auriez ce nom-là, je peux vous assurer, ça vous défigure, ça vous détruit de l'intérieur. Ça vous détruit dans votre psychisme. Jabez s'est levé et a fait cette prière parce qu'il ne voulait pas subir, la vie, il ne voulait pas subir les paroles qui avaient été dites sur lui, le mot qui, je vais dire, qui contient la personne. Parce que nous avons un nom, si nous n'avions pas de nom, nous ne sommes plus personne. C'est ça le Troisième Reich avec Hitler, il a donné des numéros aux gens. Les gens qui allaient au camp de concentration, ils n'avaient plus que, on leur a retiré leur nom, ils n'avaient plus qu'un numéro. Si vous voulez détruire quelqu'un, c'est comme ça qu'il faut faire. On lui retire son nom, son prénom, on met un numéro à la place. Ça détruit tout. Vous n'existez plus. Vous êtes terminé. Et le nom a une valeur énorme. Pendant longtemps, dans toutes les générations dans la Bible, vous pouvez voir, ça caractérisait la personne, le nom caractérise la personne d'allure, les noms de Dieu caractérisent qui Dieu est. C'est le nom qui est porteur de qui nous sommes. Et vous vous rendez compte que son nom, ce qu'il voulait dire, mais c'était affreux. Il y avait une montagne au-dessus de lui qu'il fallait déplacer. Et il s'est dit, ben, la seule solution, je vais prier, moi je ne veux pas que ça en reste là, je ne veux pas que cette montagne qui est sur moi me reste plantée dessus. Et il va prier pour que cette montagne soit délocalisée, pas au-dessus de moi. Elle sera mise, jetée dans la mer, de l'oubli, je vais dire comme ça. Il ne va pas subir, mais il va triompher. Et c'est par la prière qu'il va pouvoir triompher de ce malheur anticipé pour toute sa vie. Je pense que Jabez a prié avec une grande détermination pendant longtemps et s'est battu avec sa requête. Il s'est battu avec sa requête jusqu'à ce que le Seigneur ait exaucé sa prière. Ce n'est pas une petite prière dite le dimanche matin et puis que j'oublie à midi moins un quart et je ne sais plus ce qui avait été dit dans la prédication. Mais c'est une prière de toute sa vie, une prière de toute une vie. Qu'y a-t-il de si exceptionnel dans cette prière pour que pendant des siècles les prédicateurs en parlent? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette prière? Il est un fait que cette prière a suffisamment plu à Dieu pour qu'elle soit rapportée dans l'Écriture. Alors il y a quatre points dans cette prière. Quatre choses sont demandées. Il a demandé que Dieu le bénisse. Jabez a demandé que Dieu le bénisse. La deuxième chose, il a demandé que Dieu agrandisse son territoire. La troisième chose, il a demandé que la main de Dieu soit avec lui. La quatrième chose, il a demandé que Dieu le préserve du mal. Quatre choses importantes. C'est une prière toute simple que la plupart du temps, la plupart d'entre nous font au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que nous allons les considérer. La première chose que Jabez demande, c'est que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Nous avons besoin d'être bénis par le Seigneur, non? Ça dépend ce que nous entendons par bénédiction. Baraka, c'est la bénédiction. Hein, il y en a qui voient l'argent, ben, ça peut être ça, les bénédictions matérielles, et bien là, d'accord, mais il y a plus que ça, il y a beaucoup plus que ça, évidemment. Il y a d'abord et avant tout les bénédictions spirituelles. Elles sont plus importantes que les bénédictions matérielles, même si les unes et les autres sont importantes. Tout est important, on ne crache rien, hein. Très important de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous, bien entendu. Mais les plus importantes, c'est les bénédictions spirituelles. nous avons été bénis en Jésus-Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. C'est en lui que nous avons été bénis. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous avons un héritage dans le ciel. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Nous avons tout l'héritage dans le ciel. Tout l'héritage de Jésus, c'est pour nous. Et c'est vrai que Jabez a dû se souvenir d'Abraham, son ancêtre, qui disait, qui avait entendu de la part de Dieu plutôt, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Tu seras béni, je te bénirai. » Plus que ça, tu seras une source de bénédiction. Et donc, je vais dire qu'il y a les deux sortes, il y a les deux sens. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Alors, je te bénirai pour que tu bénisses. Je te bénirai pour que tu bénisses. Il y en a tellement qui veulent être bénis pour eux-mêmes. Seigneur, bénis-moi. Je veux ceci, je veux cela. Pour moi. Et ça, c'est triste. Parce que la parole de Dieu, Jacques, nous dit que Dieu ne répond pas quand nos prières sont égoïstes, quand nous cherchons uniquement à satisfaire notre chair. Dieu ne répond pas. Il répond pour qu'il soit glorifié dans nos vies. Il veut que nous soyons bénis, bénis de manière extraordinaire, mais pour bénir les autres. Ce que Jabez voulait, c'est être en bénédiction pour le monde entier. Et ça, c'est important. Être béni afin de bénir. Si nous sommes là, c'est que nous sommes sauvés, c'est que nous voulons être sauvés, nous désirons être sauvés. Eh bien, nous sommes sauvés pour servir. Et de la même manière, nous sommes bénis pour bénir. Dieu nous appelle à la bénédiction, à bénir les autres, par maudire, par nous comparer. Les richesses ou quoi que ce soit, c'est recevoir de Dieu pour donner aux autres, pour partager tout ce que nous avons. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas du tout l'état d'esprit du monde. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça que Dieu veut, c'est que nous soyons des instruments de bénédiction pour Dieu et pour le monde. Si nous désirons avoir plus de capacité pour mieux servir les autres, alors c'est comme ça que Dieu va se glorifier, c'est comme ça que Dieu va agir dans notre vie et nous serons une bénédiction. Jabez demande comme Jacob l'avait déjà fait, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il faut s'attacher à ces prières. Jacob est un homme qui cherche la bénédiction et « Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. » Il le désire tellement qu'il retient l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel ne pourra pas le quitter tant qu'il n'aura pas été béni. Est-ce que nous avons de la persévérance dans nos prières? Est-ce que nous nous efforçons d'aller jusqu'au bout de nos prières? Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu va répondre à nos prières? Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est la volonté de Dieu? C'est aussi quelque chose d'important. Des fois, on demande des choses, on n'est pas trop bien sûr si c'est bien ça, mais enfin, on le demande quand même. Il ne faut pas s'étonner du résultat. Il faut quand même être convaincu de ce qu'est la volonté. Il faut déjà chercher pour savoir si on est dans la volonté de Dieu. Mais quand on est dans la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas remettre en doute. Si on est sûr de la volonté de Dieu, on peut demander et Dieu va accomplir son œuvre. Demandons-nous pour nous-mêmes, est-ce que nous demandons pour nous ou est-ce que nous demandons pour Dieu? C'est revenir à cette question très importante parce que aujourd'hui, l'indifférence s'est emparée du peuple de Dieu. Il y a une indifférence. Indifférence aux choses de Dieu. Je veux être béni pour moi. La réalité, c'est ça. Je veux m'emparer de toutes les bénédictions pour moi, pour être riche en moi-même. Mais celui qui est riche pour Dieu en Jésus-Christ, il est riche pour les autres. Nous avons tout ce qu'il faut matériellement et nous avons perdu la vision des bénédictions spirituelles. Faisons attention. Nous sommes dans un monde qui est attiré par la convoitise. C'est posséder, posséder, posséder. Et si nous possédons, nous sommes bien, nous sommes bénis de la part de Dieu. Si nous avons, c'est que nous sommes bénis de la part de Dieu. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Et ça, c'est grave. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, dit Jésus, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais si nous cherchons uniquement à nous faire plaisir, nous sommes comme le monde. Nous ressemblons au monde et nous faisons comme le monde. Mais alors, je pense que ce n'est pas la demande de Yahweh. Yahweh, il savait ce que Dieu avait dit à Abraham. Être une bénédiction pour le monde. Et je crois que c'est tellement important si nous avons cette détermination. Alors, une deuxième requête. Étends mes limites, agrandis mon territoire. Étends mes limites, agrandis mon territoire. Alors, en tant qu'Église de Bois-de-Villers, nous voulons demander au Seigneur, étends nos limites, agrandis notre territoire. Il y a la province de Namur à sauver. C'est une province avec des villes et des villages. Alors, nous voulons atteindre la province de Namur. Il y a déjà des villages ici, le village de Bois-de-Villers, et tous les villages alentours, l'entité de Profondeville, les autres entités tout autour. Et il y a du travail. Je peux vous assurer qu'il y a du boulot. On peut retrousser ses manches. Il y a du travail tant qu'on en veut. Étant mes limites, agrandis mon territoire. L'ennemi essaye toujours de nous serrer de près, de nous limiter le plus possible, de retrancher. C'est comme avec Israël. Rappelez-vous le roi Saül. Il y avait les Philistins qui étaient là, il y avait la bande de Gaza, là, on va dire comme ça, plus ou moins. Hein? Les Philistins étaient là, tout près de la mer, un peuple venu par la mer avec leur bateau, et ils s'étaient installés, et ils essayaient de conquérir le pays sur Israël. Mais Israël avait reçu la mission de conquérir le pays pour de la promesse. Et l'ennemi essaie toujours de prendre du terrain sur nous. Soit nous prenons du terrain sur l'ennemi, soit l'ennemi prendra du terrain sur nous. Et bien souvent, si nous laissons faire, ce sera l'ennemi qui va prendre du terrain. Vous n'avez qu'à voir, avec David, il n'a eu que des guerres, des conflits, des problèmes, des difficultés, et il a finalement gagné. Mais c'est un travail, c'est tous les jours se battre pour conserver le pays, pour conserver le territoire et pour gagner le territoire. Il a gagné finalement. Il a gagné sur les ennemis, sur les Philistins, sur les Amalécites, sur les Madianites et sur tous les autres. Mais il a dû batailler tous les jours. Il a dû se battre. Et notre guerre, elle n'est pas finie, je peux vous assurer. C'est une guerre spirituelle dans la prière, l'intercession, mais aussi des actions. Parce que si on prie, qu'on ne se bouge pas, il n'y a pas grand-chose qui va se faire, vous savez. Les gens, même si vous priez pour eux, et que vous ne leur parlez pas de Jésus, ça m'étonnerait que même si vous avez un bon témoignage, ils puissent savoir que Jésus est le Christ. Si vous ne le dites pas avec votre bouche, ça m'étonnerait qu'ils puissent l'entendre à la radio ou le voir à la télévision, peut-être. Mais on n'a pas beaucoup de radio ni de télévision chrétienne ici. Alors, je pense que c'est tellement important pour nous d'aller annoncer l'Évangile au dehors. Mais pour cela, il faut être convaincu. Étends mes limites, agrandis mon territoire. N'est-ce pas là le sens de la prière de Jabez? Reprendre le territoire que l'ennemi nous a volé. Reprendre et gagner du terrain. Je crois que c'est tellement important. Ne laissons pas l'ennemi grignoter notre héritage. Ne le laissons pas faire. Alors, est-ce que vous voulez que votre sphère d'influence s'élargisse? Est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous voulez demander à Dieu d'étendre vos limites? Est-ce que ça vous intéresse de demander à Dieu d'étendre vos limites? Vous serez béni et vous serez en bénédiction. Et c'est vrai que on peut mettre à disposition de Dieu nos dons spirituels pour gagner du terrain. On sera utile davantage dans notre témoignage dans ce monde. Nous serons les outils de Dieu pour le salut d'un monde qui est perdu autour de nous. Dieu cherche des instruments. Est-ce que vous êtes déterminés à devenir les instruments de Dieu cette année en 2014? Est-ce que vous êtes déterminés à devenir des instruments de Dieu? C'est à vous à répondre. Ésaïe 54, verset 2, Dieu parle par le prophète et dit ceci: « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Dieu veut que tu gagnes du terrain sur l'adversaire. À toi d'élargir ta vision. Notre vision. La vision de ces âmes qui périssent, qui vont en enfer. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Que nous ayons une église solide, bien structurée, qui porte du fruit. Le dimanche passé, nous avons vu devenir des arbres de Dieu, des figuiers qui portent du fruit. Et si tout le monde ici porte du fruit, qu'est-ce que ça va devenir? Si nous portons du fruit tous, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir une ruche avec les abeilles qui rentrent. Il y a des guerrières qui empêchent que les ennemis rentrent dans la ruche. Il y a tout un travail qui se passe dans une ruche. Extraordinaire. Si nous devenons une ruche de Dieu, il va y avoir un travail magnifique qui va s'orchestrer. Par contre, si chacun fait son petit truc, chacun de son côté, sans se préoccuper de la vision globale, il n'y a rien qui se produira, pas grand-chose, un petit feu par-ci, un petit feu par-là, mais ce sera détruit au fur et à mesure par l'ennemi. Il va saccager, il va reprendre, il va grignoter. Mais si nous sommes unis les uns avec les autres, qu'est-ce qui va se passer? Avec cette détermination de conquérir, cet esprit de conquête, nous allons réussir ensemble. Jabez va demander que ta main soit avec moi. Voilà encore une requête. Que ta main soit avec moi. Que ta main soit sur moi. Un jour, c'est vrai que j'ai senti la main de Dieu posée sur moi. C'était une conférence, une main qui était chaude sur mon dos. C'était extraordinaire. Sentais la main de Dieu sur ma vie. On ne ressent pas tous les jours cette main de Dieu posée sur nous. Mais nous savons qu'elle est posée sur nous. Sur celui qui est intègre dans ses voies, qui est droit, qui cherche la lumière, qui cherche à faire ce qui plaît au Seigneur. Qui se repente de ces mauvaises choses, bon, il faut se repentir aussi. Il faut demander pardon, il faut se laisser éclairer, il faut se laisser guider par Dieu. Dieu, il est avec celui qui le craint. Si nous craignons Dieu, véritablement, Dieu va agir dans notre vie. Jabez reconnaît que de lui-même, jamais il n'arrivera à accomplir l'œuvre de Dieu. Tout seul, il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il a prié. Il se rend compte que le défi, la montagne qui est au-dessus de lui est trop grande. C'est trop fort. Il ne peut pas y arriver. Mais avec l'aide de Dieu, si ta main est sur moi, plus la montagne, mais si ta main est sur moi, si c'est ta main qui est sur ma vie, plus cette montagne de douleur, mais la main de Dieu posée sur vous, alors ce sera possible. Tout va devenir possible. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Mais avec lui, alors, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Avec lui, il n'y a rien qui soit impossible. Vous marchez sur la puissance de Satan. Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous ressusciterez les morts, vous annoncerez la parole, les gens seront sauvés, touchés, vous serez persécutés aussi. Parce que ça, c'est indéniable. On ne peut pas tout avoir. Il faut aussi avoir un petit peu... Il y a du plus et il y a du moins. Et le plus, c'est toutes les bénédictions, et le moins, c'est la persécution. Mais la persécution, c'est tout à fait normal. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Si vous ne voulez pas la persécution, vous êtes tellement sage que vous ne voulez pas embêter personne, on n'annoncerait jamais Jésus. Hein. Alors, vous ne serez jamais persécuté non plus. Mais vous n'aurez pas accompli la volonté de Dieu, vous n'aurez pas porté de fruits non plus. Et le Seigneur ne sera pas très content, ne sera pas très heureux. C'est un talent qu'on aura plongé dans la terre. Et Dieu veut que nous utilisions tous nos dons, tous nos talents pour la gloire du Seigneur. Notre travail n'est pas terrestre et temporel, il vise l'éternité. Nous visons l'éternité. Nous ne voulons pas faire des choses uniquement pour cette terre. Nous allons quitter cette terre, on ne sait même pas quand. Ça peut arriver à tout moment. Alors, non, je ne veux pas travailler pour la terre. J'ai une cité céleste. Je suis concitoyen des saints dans la lumière. Jésus nous dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Sans lui, nous ne pouvons pas. Mais si nous sommes greffés à l'olivier franc, greffés comme des sarments, aux ceps de vigne, nous allons porter du fruit, et beaucoup de fruits, parce que nous allons puiser notre sève en Christ. Et qu'est-ce que ça va donner ? Des fruits dont nous n'allons pas rougir, vous savez. Les fruits de la repentance. Les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, mais mise en action, bien entendu, pas rester, on ne va pas rester avec un petit sourire évangélique jusqu'à la fin de nos jours sans rien faire, mais on va manifester la gloire de Dieu. On va manifester la gloire de Dieu autour de nous. Imaginez que la main de Dieu est avec vous. Il faut s'imaginer la main de Dieu. Souvent avec les enfants... J'illustre la main de Dieu sur Abraham, une grande main qui vient du ciel posée sur Abraham. C'est un peu ça. Avec la main de Dieu sur nos vies, extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a à craindre ? Absolument pas. Actes chapitre 11, verset 21. Et dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'on voit ? La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main de Dieu. La main du Seigneur était avec eux et ils se convertissaient, ils croyaient en la parole qui était annoncée. Et Marc 16, verset 20 aussi, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur était avec eux pour travailler sur les mains, d'accord ? Et le Seigneur travaillait avec eux, le Seigneur travaillait avec eux. Et qu'est-ce qui se passait ? Ils confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Extraordinaire, il y avait des miracles de la part de Dieu, par les mains de Dieu, pas les mains des hommes. Oui, les mains des hommes aussi, parce qu'ils avaient foi en Dieu et Dieu agissait au travers d'eux. Finalement, Jabez demandera, préserve-moi du mal en sorte que je ne sois pas dans la douleur. Il veut rompre la chaîne. Je ne veux pas porter ce nom de douleur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne veux pas que ce soit des douleurs jusqu'au bout. Seigneur, romps cette parole, que cette parole soit terminée. Il était cause de douleur pour sa mère. Et il ne veut pas être cause de douleur pour les autres. Que sa vie ne soit que douleur ou qu'il soit douleur pour les autres. Parce que ça va dans les deux sens. La douleur... C'est des fois la douleur que je porte. Et c'est des fois la douleur que je fais porter aux autres. Ça va dans deux sens. La douleur qui m'afflige et qui me démolit et la douleur qui sort de moi pour démolir les autres. Deux directions. Coupe ça, Seigneur. Arrête ça, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas vivre dans la douleur et je ne veux pas faire porter la douleur sur les autres. Détruire les autres par mes comportements, mes paroles et mes pensées. Il veut être gardé du mal. Il veut que sa vie soit une bénédiction Et il ne veut pas être une cause de douleur pour les autres. Et une des façons d'être une cause de douleur, c'est en péchant. Le péché est cause de douleur. Quand nous péchons, nous rendons les autres malheureux. Il y a Dieu qui est malheureux. Le premier à être affligé par nos péchés, c'est le Seigneur. Ah, ça, on l'oublie des fois. Et surtout quand le péché est caché. Personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Dieu voit tout. Dieu connaît toutes choses. Et on le voit dans Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Il fut affligé en son cœur. Dieu souffre, Dieu a de la peine quand il voit le péché des hommes. Il a de la peine, il souffre. Nous faisons souffrir Dieu. Alors là, la souffrance, c'est Dieu qui la porte. Et il souffre en voyant le mal qui s'opère sur la terre. Dieu souffre énormément en voyant le mal qui se passe sur la terre, dans le cœur des hommes, dans les pensées des gens. Ils se disent, oh, c'est pas grave, personne ne le sait. Et d'ailleurs, ça me regarde, c'est mon problème. Ce n'est pas le problème des autres, c'est même pas le problème de Dieu, c'est mon problème. Et Dieu souffre. Dieu souffre énormément de voir ça. Dieu souffre. Et c'est vrai que le péché fait souffrir ceux contre qui le péché a été commis. Ça, bien entendu, hein, on le sait tous, un père alcoolique va rendre toute la famille. Toute la famille va souffrir. Quelqu'un qui se suicide, tout le monde va se culpabiliser après. Etc. On peut sortir des milliers d'exemples de souffrances dues au péché. C'est terrible, tout ce que ça opère dans le cœur. Si vous avez oublié que le péché fait souffrir, il faut revenir à la croix. Revenir à la croix où Jésus a supporté la souffrance qu'a imposé le péché. Il a souffert plus que nous tous. Lui, il n'a pas péché, mais il a porté le poids du péché. On l'a fait souffrir de toutes les manières jusqu'à le clouer, le pendre sur la croix. Il a souffert énormément. L'attitude de Jabez, c'est une attitude de rupture. Il veut rompre avec les liens, la parole de sa mère, avec le nom attribué sur sa vie. Il veut rompre avec ça. Jabez n'était pas responsable de ses souffrances. Il les a trouvées à sa naissance. Cependant, il ne les a pas regardées comme du fatalisme. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il va mettre cette dans sa prière. Je vais dire, les éléments qui vont non pas créer une fuite, je veux fuir de mes problèmes, non. Il va confronter la réalité et la donner à Dieu. Il va donner sa souffrance, il va donner sa vie à Dieu de telle sorte qu'elle ne soit plus comme sa vie a été prédisposée, je vais dire, par ce mot qui lui a été donné, qui est son nom. Il va donc avoir une attitude de rupture. Et je crois qu'il faut avoir cette attitude de rupture pour que les choses puissent être transformées. Il s'est opposé. C'est une décision qui a demandé du courage. Il a pris une décision, il a présenté cette décision à Dieu. Il l'a présenté à Dieu. Il est devenu l'un des membres de sa famille les plus importants devant le Seigneur. Il a recherché la faveur de Dieu et Dieu lui a donné cette faveur. Dieu lui a accordé. Et Dieu veut nous accorder ses faveurs parce que nous lui demandons et surtout parce qu'il nous aime. Surtout parce qu'il nous aime. Alors, qu'est-ce que je dois faire d'une manière pratique? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'année 2014 soit une année de bénédiction? Qu'est-ce que je peux faire? Trois choses. C'est trois ou quatre? Trois choses que je vais vous dire. publier les promesses de Dieu en ma faveur. Je dois publier les promesses de Dieu en ma faveur. Ésaïe dit ceci au chapitre 43, versets 1 à 7, mais on ne lira que les deux premiers versets. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Je peux publier la promesse de Dieu pour ma vie. Dieu est pour moi et personne ne pourra être contre moi. Ni les circonstances de la vie, ni les problèmes que je peux avoir ne pourront se dresser contre moi. Je vais avoir la victoire. Ésaïe 43. C'est une victoire qui m'est donnée et que je saisis par la foi. Par la foi. Luc au chapitre 4, verset 19. Pour proclamer aux captifs, Dieu m'a envoyé, hein, c'est Jésus qui le dit, pour annoncer une année bénie de la part de Dieu. Une année bénie. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, c'est depuis qu'il est venu, hein, ça fait plus de 2000 ans. Mais nous voulons proclamer une année de grâce, 2014 bénie dans le nom de Jésus. Que cette année 2014 soit une année de grâce de la part de Dieu. Nous pouvons publier, nous pouvons proclamer, nous pouvons confesser, c'est ce que nous devons faire. Confesser, publier, proclamer la promesse de Dieu en ma faveur, en faveur de l'Église, en faveur de nos familles. Demander à Dieu, je proclame. Je dois être convaincu de cela. Je lis la parole de Dieu, je retiens les promesses, je les proclame. Elles sont pour moi. Elles sont pour moi, elles sont pour nos familles. Elles sont pour vous, elles sont pour chacun d'entre nous. Je proclame les promesses de Dieu et je demande à Dieu d'agir. Psaume chapitre 2, verset 8, nous l'avons lu tantôt. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi, demande-moi. Et je te donnerai quoi ? Un serpent au lieu du pain ? Non. Je te donnerai les nations pour héritage. Les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Extraordinaire ça. Et si nous demandons, c'est pour ça que l'Église, quand elle a cru qu'elle pouvait demander de grandes choses, elle a envoyé des missionnaires. Il y a eu des missions qui ont envahi l'Afrique et dans les autres continents parce qu'ils y ont cru. Ils ont cru véritablement. Et Dieu a agi de manière extraordinaire, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie d'ailleurs, en Europe. Eh bien, voilà, nous avons un continent qui doit se redresser spirituellement et nous devons vraiment réaliser que nous sommes la tête et non la queue. Et Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Dieu désire coopérer avec l'homme. Si nous ne demandons pas, Dieu n'accomplira rien. Si je ne demande pas, ah oh oui, si tu crois dans la parole, oh c'est bien. Ah ouais, attends. Si tu ne confesses pas, si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va se produire. Hein. Je dois y croire, je dois confesser. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais si tu crois, mais si tu confesses aussi, confesser et demander à Dieu. Je demande aussi des choses. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Il n'est pas étonnant que Dieu a répondu à la prière de Jabez. Pas étonnant. Et Dieu veut faire des choses extraordinaires. Pour son Fils, il lui a donné les nations pour héritage. Les nations. Et si vous demandez les nations, il vous le donnera parce que nous sommes le bras étendu de Dieu sur la terre. Jésus est au ciel et il utilise son Église pour accomplir sa mission, la grande mission, la grande commission. J'espère que nous ne sommes pas en démission. Hein? Nous sommes missionnaires et pas démissionnaires, d'accord ? Nous sommes des missionnaires là où Dieu nous a placés, on l'a encore dit vendredi. Nous ne sommes pas des missionnaires. J'espère que personne n'a fait sa lettre de démission. Parce qu'il y a du boulot pour vous, je peux vous assurer. Il est important dans la prière de focaliser toute son attention sur un sujet précis. Ne sois pas évasif quand tu pries, mais répète et répète ta demande jusqu'à l'exaucement. Ne sois pas évasif. Crois au Seigneur et tiens-toi dans la prière. Tiens-toi comme un chien qui tient son os jusqu'au bout. Il y a des chiens, je peux vous assurer, pour retirer l'os ou le bâton, pas moyen, hein. Ils tiennent ça dans leur gueule, hein. Impossible de l'avoir. Mais c'est toi avec la prière, avec ton sujet de prière, comme Yabetz avec sa prière. Il ne lâche pas, je ne lâcherai pas jusqu'au moment, comme Jacob. Et ce ne sera pas seulement pour moi, ce sera pour les autres. Gardez fermement ma position dans ma requête. Voilà le troisième point, la requête d'une vie. Gardez fermement ma requête, comme un chien avec son os. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, est-ce que je suis ferme dans mes sentiments ou est-ce que mes sentiments sont fermes aujourd'hui, demain ils sont vacillants et après-demain j'ai déjà oublié ce que j'avais eu dans la tête 2 jours plus tôt avec Dieu, ou alors je garde à l'esprit d'une manière constante la vision que j'ai, la parole de Dieu qui m'a été donnée. Samuel ne laissait pas tomber une seule parole que Dieu lui avait donnée par terre. Il a gardé dans son cœur. De peur de pécher contre Dieu, c'est David qui le dit. Hein. Je serre ta parole contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Je garde et je suis plus. Nourrissez tout le temps de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il était vainqueur. Confessez la promesse et en être convaincu. La publier devant les hommes et devant le diable. Parce que le diable, il utilise nos pensées, des pensées de défaite, des pensées qui nous ridiculisent, qui nous méprisent. Alors il utilise tout ça et il revient à l'assaut avec des vieilles habitudes. Tu sais, tu es ceci, tu es douleur, hein, tu t'appelles douleur. Ah. Et ça, il rappellera ça. Tous les jours, il rappellera un petit peu de négatif. Et c'est pour ça que nous devons publier, non seulement devant nous-mêmes, parce que quelquefois, nous sommes des gens qui doutons, n'est-ce pas? Donc, je me rappelle et je publie la parole de Dieu parce que je risque de perdre un peu courage, je risque de perdre un peu la foi, de douter à certains moments. Donc, je dois publier parce que je veux rallumer la flamme de la foi. Et je dois le dire devant les hommes, parce que ce n'est pas eux qui vont me faire broncher non plus. Eux, ils doutent, ça c'est leur problème. Ils doutent de moi, ils doutent de Dieu, ils doutent d'eux-mêmes, mais moi, je dois savoir quoi. Et je n'ai pas à me laisser douter par la voix des hommes. Et je dois même publier devant les hommes. Et je dois publier aussi devant le diable. Parce que le diable, il vient toujours avec des pensées de défaite, avec les miennes, d'autrefois. Et il veut les ranimer aujourd'hui, les remettre, les réinstaller sur mon disque dur d'aujourd'hui. Mais ce vieux disque dur, des choses anciennes sont passées. N'utilisez pas les vieux ordinateurs d'il y a 25 ans. Utilisez le nouveau disque dur formé avec la parole de Dieu, je vais dire, dans nos cœurs. Que le Seigneur grave ces paroles dans notre esprit. Confessez la promesse et en être convaincu, la publier devant les hommes et devant le diable, la prier devant Dieu et la garder fermement toute notre vie. Si tu persévères dans la prière, tu auras aussi la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, elle est pour toi ce matin. Nous allons prier.